الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فما زلنا نقرأ كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ سليمان القصير حفظه الله. وقد توقفنا في درسنا الماضي عند كتاب الصيام، عند كتاب الصيام، فإن شاء الله تعالى سنقوم ببعض مراجعات. أولا، السؤال فيما يتعلق بالذي له مسكن مثلا بفرنسا ومسكن بالجزائر، المغرب، تونس مثلا، فهل يكون مقيما في المنزلين، أو هل يكون مقيما بفرنسا فقط مثلا؟ قال العلماء: يعد الشخص مقيما في المكان الذي يستقر فيه 4 أيام فأكثر، والذي فيه زوجته وأهله وماله. أما منزله في مدينة أخرى الذي يذهب إليه في بعض مثلا نهاية الشهر أو الأسبوع أو في العطلة مثلا، يجوز له الجمع والقصر، لأن هذا المنزل ليس محل إقامة، ليس محل إقامة، فيجمع ويقصر إذا كان بين المنزلين مسافة قصر، ما لم ينوي الإقامة فيه أكثر من 4 أيام. طيب، ما لم ينوي الإقامة فيه 4 أيام فأكثر، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فيصبح مقيما في هذه الحالة. فقال الفقهاء: من له مسكنان، مسكنان، طيب، فالمسكن ما هو المسكن الذي يكون الشخص مقيما؟ هو أولا المسكن الذي يقيم أكثر، يقيم أكثر، طيب، مثلا يمكث في فرنسا 10 شهور، وفي البلاد 2 شهر، فعندما كان بفرنسا فهو مقيم، أما في البلد هو مسافر، إلا إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أكثر. طيب، ثانيا، إن استوى مكثه في المنزلين، يمكث 6 أشهر في فرنسا و6 أشهر في الجزائر، فيكون إقامته في المكان الذي فيه زوجته وأولاده وماله. ثالثا، إن استوت الإقامة في المنزلين وله في كل منهما أهل ومال وزوجة، مثلا له زوجتان ما شاء الله، زوجة بفرنسا وزوجة بالبلاد، ويمكث 6 أشهر في فرنسا و6 أشهر في البلاد، ها، من باب العدل بين زوجتين، فهنا هو مقيم في كل منهما، هو مقيم في فرنسا ومقيم بالبلاد. طيب، نعم. Donc, premièrement, concernant la question: celui qui a plusieurs maisons, peut-être pour certains d'entre vous, une maison en France, d'accord, une habitation, un logement en France et un logement au bled. Est-ce que quand il va au bled, est-ce qu'il est considéré comme résident ou bien voyageur? D'accord? Ou à quel endroit il sera voyageur et à quel endroit il sera résident? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est au bled? Est-ce que ça... Donc les ulama, ils disent, la personne, elle sera moukim, résidente, moukim, à l'endroit où elle est installée. Elle s'est installée pour plus de 4 jours. Elle devient moukim. D'accord? 4 jours. Ça veut dire quoi? C'est l'endroit, donc, dans lequel aussi tu as ta famille, en général, ton épouse, tes enfants, etc. Quant à la deuxième maison que tu peux avoir au bled ou ailleurs, cette deuxième maison-là que tu vas, à laquelle tu vas aller, par exemple, pendant les vacances, une fois par mois, des trucs comme ça, comme font les retraités, par exemple, des fois, et année, et bien cet endroit-là n'est pas un endroit de iqama, de résidence. D'accord? Donc la personne, elle pourra raccourcir ses prières ou réunir ses prières. D'accord? Si bien sûr la distance le permet, d'accord, entre les deux maisons. Et tant qu'elle n'a pas l'intention aussi de rester plus de 4 jours. Donc si tu vas au bled, même si ce n'est pas ta maison de résidence, ta résidence, on appelle ça?
Secondaire.
Voilà. Même si ce n'est pas ta première résidence, d'accord, c'est ta résidence secondaire, mais que tu as l'intention de rester plus de 4 jours. Tu vas rester une semaine, 10 jours, un mois. Dans ce cas-là, dès que tu arrives, tu n'es plus voyageur. D'accord? Bien sûr, il y a une grosse divergence sur ça. Mais la majorité des ulama, ils disent que si tu as l'intention de rester plus de 4 jours, dès que tu arrives dans ta ville où il y a ta maison secondaire, tu n'es plus voyageur. Par contre, sur le trajet, oui. D'accord? Pendant le trajet France-Alger, maintenant, France-Alger, tu pourras raccourcir tes prières, réunir tes prières. Mais dès que tu rentres dans Alger, ça y est, tu n'es plus voyageur. Pourquoi? Parce que tu as l'intention de rester plus de 4 jours. D'accord?
Sur le début des 4 jours, je suis voyageur. Les 4 premiers jours, je suis voyageur.
Voilà. Non, non, non. Non, non, non. Si tu as l'intention de rester plus de 4 jours, dès que tu rentres dans la ville, ça y est, tu n'es plus voyageur. Même les 4 premiers jours. Même les 4 premiers jours, d'accord? Mais pendant le trajet, non.
Si t'as pas
Par
l'intention.
contre, si tu as l'intention de rester moins de 4 jours, moins de 4 jours, mais pendant ces 2 ou 3 ou 4 jours, tu es voyageur, tu vois. C'est ça? Maintenant, les fuqaha disent, parce qu'il y a une situation aussi particulière, quand la personne elle a deux maisons, encore une fois, comment, sur quoi on va se baser? D'accord? Parce qu'il se peut que la personne reste longtemps dans sa maison secondaire. Ou que quand tu fais le total à la fin de l'année, il se peut qu'elle soit restée en tout en France peut-être 6 mois et 6 mois au bled. C'est possible aussi ça, tu vois. Donc comment on fait dans ce cas-là? Quand c'est 6 mois, 6 mois, comment on fait? Donc premièrement, si la personne reste un des deux endroits, voire plus, il se peut que tu aies 3, 4, 5 maisons. Tu vas regarder ton lieu de résidence, ton lieu de iqama, c'est le lieu où tu vas rester le plus longtemps. D'accord? Ça veut dire que si tu as 5 maisons, Mahmoud, et que dans une maison, tu restes 7 mois de l'année, et que les autres, c'est le reste des 12 mois de l'année, ne sera résident que dans la maison dans laquelle tu restes 7 mois. Et les autres, tu es voyageur, sauf si, encore une fois, tu restes plus de 4 jours et 4 nuits. D'accord? Maintenant, si tu restes 6 mois, 6 mois, et vraiment, tu as partagé l'année en deux, 6 mois au bled, 6 mois ici, comment on fait? Les ulama disent, tu seras résident là où tu as ta famille, ton épouse, tes enfants, tes biens, etc. D'accord? Maintenant, si tu restes 6 mois, 6 mois, et que dans les deux maisons, tu as une famille, ça existe, là. Ça existe, donc tu as une famille, une femme, des épouses et tout. Comment tu fais? Eh bien, tu es résident dans les deux. Dans les deux, tu es résident. Ça veut dire que même si tu as l'intention de rester seulement 3 jours, مثلا, seulement 3 jours, dès que tu arrives, tu es résident, tu n'es pas voyageur. Pourquoi? Parce que tu as ta famille, tu as ton épouse à cet endroit-là, et que quand tu fais le calcul à la fin de l'année, eh bien, tu restes 6 mois dans la première maison et 6 mois dans la deuxième maison. Comprenez? Oui.
Est-ce que j'ai bien compris que si on part dans un pays comme les étrangers, qu'on ne connaît pas et qu'on va à l'hôtel, si on a l'intention de rester plus de 4 jours de résident?
Si tu restes à cet hôtel-là plus de 4 jours,
Non, bah, c'est la paire voyageur qui change, en fait, pas
si
forcément.
tu restes à cet hôtel-là plus de 4 jours, dès que tu poses le pied dans la ville où il y a l'hôtel, tu n'es plus voyageur.
D'accord.
Vous voyez?
Je ne savais pas.
Hada hual jumhur. Ala dhalika al jumhur. Vous voyez? Bien sûr, il y a des grosses divergences. Certains disent que tant que tu n'as pas l'intention de devenir un résident à cet endroit-là, tu es un voyageur. Même si tu restes 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Ah, moi je pensais que c'était ça. Je suis le sang.
C'est un problème.
Est-ce que c'est pas faux ça ou c'est faux? C'est faux ou c'est pas faux ça? C'est la vie, c'est la traduction.
C'est un avis.
C'est une facilité ça. C'est une facilité.
La facilité. Et alors?
Si un problème, si il y a ces deux choix.
Mais avant qu'on regarde la facilité, on regarde les preuves. On regarde les preuves, on regarde les textes. Quand tu regardes les textes, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais raccourci plus de 4 jours. Plus de 4 jours par rapport à l'intention. Lorsqu'il avait l'intention de résider plus de 4 jours, il raccourcissait pas. Il a raccourci quand il restait moins de 4 jours. Ou sur le trajet. Sur le trajet, non. D'accord?
Si tu changes d'hôtel, si tu as
Non.
l'intention de rester plus de 4 jours, mais qu'au bout de 2 jours, tu sais que tu vas changer
Mais ça dépend, il est où l'hôtel.
si tu es dans la même
Si
ville que l'hôtel.
l'hôtel est dans la même ville et que le déplacement, c'est pas un voyage,
Si tu changes de ville, par contre,
si
ça
tu
change.
changes d'hôtel et que l'hôtel, il a une distance du premier hôtel qui fait que tu fais encore un voyage, un deuxième voyage, parce qu'à l'ANA. Parce qu'à l'ANA. Mais justement, à quel moment tu deviens voyageur? Tu pars en voyage. Tu pars en voyage, tu as fait tes affaires, tes bagages, tu pars en voyage. À quel moment tu es voyageur? Est-ce que tu es voyageur une fois que tes bagages sont faits? Dès que tu poses le pied en dehors de chez toi, tu es voyageur?
Quand tu quittes la ville, tu la vois
Alors,
plus. Tu recommences.
là aussi, il y a plein de divergences. Il y en a qui disent, dès que tu poses le pied hors de chez toi, enta musafir. Il y en a qui disent, dès que tu montes sur ta monture, enta musafir. Il y en a qui disent, dès que tu sors des limites de la ville, que tu la vois ou pas, dès que tu poses le pied, allez, imagine que les dernières maisons de Marseille, hein, les dernières maisons de Marseille, je ne sais pas si elles sont où exactement, mais dès que tu dépasses les murs des dernières maisons de Marseille, ça y est, tu es voyageur. Il y en a qui disent qu'il faut 3 miels, une distance de 3 miels, ce qui équivaut à peu près à 5 km. 5 km entre ta ville et l'endroit où tu es en voyage. D'accord? Ça veut dire que si tu es à moins de 5 km de ta ville, tu n'es pas encore voyageur. D'accord? Il n'y a pas de doute qu'à 5 km, tu ne vois plus. En général, tu ne vois plus ta ville. Vous voyez? لكن مفارقة البنيان هذه المسألة تسمى مفارقة البنيان يصبح الشخص مفارقا للبنيان وللبيوت متى فمفارقة البنيان ليس المقصود أن يتغيب المسافر عن قريته لماذا؟ لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة ربما 1000 كيلومتر أو كيلومتران أو 2000 عفوا فذكر مثلا أن امرأة تسمى زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة، امرأة يعني قد عاشت في الجاهلية، ذكر أنها تبصر من مسيرة 3 أيام، 3 أيام تبصر. إذا المقصود والمراد بمفارقة البنيان هو المفارقة البدنية، البدنية لا المفارقة البصرية. طيب هذا هو الراجح، أي إذا يتجاوز البيوت، بيوت قريته، ولو بمقدار ذراع، مقدار الذراع، فهو مسافر مفارق. إذا خرج من مسامة البيوت ولو بمقدار الذراع فإنه يعتبر مفارقا. طيب فالمراد قرية المسافر، قرية المسافر. ولو فرض مثلا أن هناك قريتين متجاورتين، قريتين متجاورتين، مثلا مارسي لبن ميغابو، مارسي لبن ميغابو، قريتين متجاورتين. طيب فلو لم يكن بينهما إلا ذراع فالعبرة هو، العبرة هي قريته هو، قرية المسافر. فإذا تجاوز المسافر بيوت مارسي أصبح مسافرا مفارقا، ولو لم يفارق القرية الثانية الملاصقة والمجاورة وهي مثلا لبن ميغاب. طيب قلت العلماء يزيز لا سكي فيزي بار مفارقة البيوت. Ils disent que la personne devient voyageuse quand elle devient yani, moufariqa, quand elle s'est séparée, entre guillemets, des habitations de sa ville. D'accord? Là, ce qui évolue ici, ce n'est pas une séparation au niveau de la vision, au niveau de la vision, comme disent certains ulama. Parce qu'il se peut que la ville, même quand tu es sorti des limites de ta ville, il se peut que pendant peut-être des centaines de mètres ou des milliers de mètres, tu continues à la voir de loin. Surtout si tu habites dans une terre un peu plate, il se peut que tu la vois toujours de loin. D'accord? Comme a été rapporté d'une femme qui a vécu à l'époque pré-islamique, qui s'appelait Zarqa al-Yamama, il a été rapporté qu'elle voyait à une distance de marche de 3 jours. 3 jours, imaginez-vous, 3 jours de marche. Est-ce que c'est à pied ou à monture? Allahu a'lam. Mais c'est énorme, 3 jours. Hein? Al-Muhim, ce qui est pris en compte, c'est la séparation physique, pas la séparation visuelle. Visuelle. D'accord? C'est-à-dire, dès que la personne a dépassé les murs des habitations de sa ville, même si elle a dépassé que même pas 1 mètre. Miqdar dhira. Un dhira, c'est une coudée. Ça fait même pas 1 mètre. D'accord? À peu près 70 cm. Ça y est, elle est voyageuse. D'accord? Tu as dépassé les dernières maisons de Marseille. D'un pas, maintenant, d'un pas, tu es voyageur. D'accord? Et donc, ce qui est pris en compte, c'est ça. Même s'il y a deux villages qui sont côte à côte, ou deux villes qui sont côte à côte, qui sont collées. D'accord? Et quand on parle des logements aussi, c'est les logements qui sont habités. Si tu arrives, il y a des logements abandonnés, d'accord? C'est pas pris en compte. C'est les logements qui sont habités où il y a des gens dedans qui habitent. Et s'il y a deux villes qui sont collées, comme ici, souvent quand tu dépasses une ville, tu rentres dans une autre ville, ou un autre village. D'accord? Eh bien, même si tu es dans la deuxième ville qui est collée, qui est avoisinante à la première, tant que tu as dépassé la première d'un mètre, mesela, ou moins d'un mètre, même quelques centimètres, tu es voyageur. Tu es voyageur. D'accord? Comme ici, par exemple, Marseille, c'est collé à quoi, par exemple, Marseille? Les
Mirabeau,
Pins.
Septem.
Septem. Voilà, c'est collé à Septem. Saint-Antoine, là-bas, quand tu roules, au moins tu arrives à Septem. D'accord? Donc, quand tu as dépassé d'un pas, ne serait-ce que d'un pas, les maisons de Marseille, tu arrives à Septem-Lévanon, ça y est, tu es voyageur. Si tu as l'intention, bien sûr, d'aller à Septem. Si tu vas à Lyon ou à Paris, par exemple, tu es à Septem, ça y est, tu es voyageur. D'accord? C'est ça qui est visé ici. Non.
Ça c'est maniable, ça c'est l'explication pour savoir ce qu'il faut sortir de la ville pour être considéré comme un.
Oui.
Ça rentre pas en compte si tu prends la ville de savoir qu'ils disent que tu sors de chez toi ou que tu as des problèmes de santé.
C'est bon. C'est la vie des chercheurs. Plein de savoir. Non.
Mais après, par rapport à ce que je disais, par rapport à 10 ans, de nos jours, c'est des panneaux qui comme les au niveau des cartes.
Ouais. Non, regarde pas les panneaux.
Ah.
Regarde les maisons. Regarde les maisons.
Parce que eux, quand ils mettent le panneau, par exemple, qui est Paris et Marseille, après ce panneau, par rapport à les cartes géographiquement, tu n'es plus à Marseille. Tu vois ce que je veux
Ouais,
dire?
donc si tu es sûr que les maisons qui sont après ce panneau-là, c'est des maisons dont l'adresse n'est plus Marseille, mais c'est les Pins de Mirabeau, bah ça revient au même du coup. Ça revient au même. Des fois les panneaux, des fois ils sont un peu placés bizarrement. C'est pas mal. Wow. Le Mohim,
Voilà,
ça
on a
n'empêche pas d'avancer
contribué.
un peu plus
Ouais,
pour aller
c'est sûr.
sur. Hein? Abdullah. Vous voyez? Faites la attention. Pour les regroupements. Même si c'est mieux, si tu n'as pas de difficulté particulière de parler ensemble, c'est mieux. Mais si tu veux les c'est mieux raccourcissement, on n'est pas trop dans la résidence. Qu'il interdit, je sais pas si c'est bien qu'il interdit vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui s'est recommandé de le faire quand il y a une difficulté et de ne pas le faire si tu as cette interdit. Parce qu'il y a certains qui disent que c'est interdit. Posez la question à un des berger et demandez quel est votre maître qui a interdit. Il a écrit, il m'a dit, je vais me tirer à lui. Non, c'est bien. Si tu l'avais, ça va, il n'y avait pas trop de mal. Honnêtement, je n'ai même pas lu.
Ah
Voilà, je n'ai même pas lu parce que je pensais à des détours où ce serait bien. Genre, par rapport à moi, comment léger un peu. Frère, comme il est sur place. Après, s'il ne pleut pas, tu me dis.
D'accord, il m'a dit que quand j'ai
Ah, c'est encore bon. Je te dirai à la fin de sa parole. Juste en revoyant un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Allez. Par rapport au malade. Le malade pendant le mois de Ramadan. Mes frères, quelles sont les situations du malade? Est-ce qu'il jeûne? Est-ce qu'il ne jeûne pas? Est-ce qu'il peut jeûner même s'il est malade? malade pendant Ramadan. Hein?
Il gêne pas, il va récupérer.
Il gêne pas et il récupère après. N'importe quelle maladie. Aïmar. N'importe quelle maladie. Par exemple, moi j'ai un mal de tête. J'ai mal à la tête. Mais ça va, c'est rien, c'est supportable. C'est un petit mal de tête. Hein? J'ai le droit de ne pas jeûner? Non, Hassan.
Il y a beaucoup de maladies imaginaires.
Maladies imaginaires.
Parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple, s'ils travaillent et ils sont soif, vraiment soif, ils peuvent rompre le jeûne après de le récupérer après. Est-ce que c'est ce qu'ils ont? Parce que moi, je leur ai dit non, parce que c'était beaucoup. Bon, ils m'avaient dit non, on n'arrive pas parce que tu as dit si tu es fatigué, tu peux laisser, après tu ne rentres pas. Je dis, mais il a incité les choses. Quand tu es malade, tu voyages, mais c'est pas parce que bon, le prophète, il travaillait, on allait passer dans le désert, on fait toujours le ramadan.
Non.
Ça va rester que c'est vrai ou
non? C'est à toi de t'organiser pour pas travailler. Si tu sais que ton travail il est trop fatigant pour toi, eh ben, tu prends tes congés pendant la Ramadan.
Voilà,
tu prends tes congés pendant la Ramadan ou tu aménages tes horaires. Tes horaires, par exemple. D'accord?
Oui.
Là. Mais concernant la maladie, c'est quoi les situations, les frères?
Ça. À partir du moment où la personne malade ne jeûne pas?
Les situations du malade qu'on a évoquées la semaine dernière.
À partir du moment où sa maladie diminue, à partir du moment où ça aggrave sa maladie ou ça retarde sa guérison.
Qu'est-ce qu'il fait lui?
Il ne jeûne pas.
Et s'il jeûne, il a le droit de jeûner ou pas?
Alors, si c'est insupportable pour lui, il ne jeûne pas.
Il ne jeûne pas. Lui, il n'a pas le droit de jeûner. Si la maladie, elle lui porte préjudice, si elle aggrave sa maladie, le jeûne aggrave sa maladie, ou le jeûne retarde sa guérison, lui, il n'a pas le droit de jeûner. S'il jeûne, il est dans le péché. Hein, il veut faire un bien, mais il commet un péché. Parce que... Deuxième situation. Seulement. Yarkvi, pourquoi tu veux qu'il paye? Quand il est guéri, il rattrape son jeûne, c'est tout. Là, on parle d'une maladie dont il peut guérir. On ne parle pas d'une maladie qui ne guérit pas, d'accord? Une maladie dont il guérit. Comme
la
diabète. Après, on a les maladies dont on n'espère pas la guérison. Eux, c'est autre chose. Parce qu'eux, ils guérissent jamais, ils sont tout le temps malades, toute leur vie. Sauf si Allah, il est guéri. Mais, là, on parle de celui qui est malade et qui peut guérir. D'accord? Bien. Donc lui, s'il ne jeûne pas, bien sûr, et il rattrape quand il peut. Ensuite?
Deuxième situation, si la personne a une maladie supportable, c'est mieux pour elle de jeûner, car elle le fait à un moment où tout le monde jeûne.
Est-ce que ça lui nuit ou pas? Est-ce que ça lui porte préjudice, le jeûne? Est-ce qu'elle a... Non, pardon. Est-ce qu'elle a des difficultés à jeûner?
Non, elle n'a pas de difficultés. Si elle n'a pas de difficultés à jeûner, elle jeûne.
Donc, si elle n'a pas de... Elle n'a aucune difficulté. Elle est, comme je disais tout à l'heure, un petit mal de tête. Mais, c'est pas ça qui va rendre son jeûne difficile. D'accord? Lui, il doit jeûner. Il n'a pas le droit de ne pas jeûner, lui. D'accord? Et troisième situation, celui dont le jeûne il est difficile, d'accord? Mais il ne lui porte pas préjudice. Il ne lui porte pas préjudice. D'accord? Lui, est-ce qu'il jeûne ou pas?
C'est Macron.
Hein?
C'est Macron.
Détestable de qui jeûne?
Non, il est difficile de jeûner. D'accord, il est malade, c'est difficile de jeûner, mais la maladie ne lui porte pas préjudice. Ni ça retarde sa guérison, ni ça aggrave sa maladie. Lui, c'est mieux pour lui de jeûner. Il a le droit de ne pas jeûner parce que c'est difficile. Il a des difficultés. D'accord? Mais c'est mieux pour lui de jeûner. Il a le droit. Et c'est mieux. Comme ça, il jeûne avec les musulmans. Il jeûne hein? Pendant Ramadan. C'est mieux que de rattraper après Ramadan. Vous voyez? C'est les trois situations du malade. Il faut vraiment les mémoriser, hein, ces trois situations-là. Le malade. Puis on a Al-Moussaf, qui nous rappelle les situations du Moussaf. Donc, le malade, souvenez-vous, c'est soit obligatoire, soit interdit, soit recommandé de jeûner. D'accord? Interdit de jeûner, obligé de jeûner et recommandé de jeûner. Ça, c'est le malade. Le Moussaf.
C'est jamais obligatoire, dans tous les cas. Dans tous les cas, ce n'est jamais obligatoire.
Donc, le Moussaf, quelle que soit la situation, il n'est jamais obligé de jeûner. Il n'est jamais obligé de jeûner, le Moussaf, le voyageur.
Et si c'est difficile, c'est détestable pour lui de jeûner.
Si c'est difficile, mais pénible de quel degré?
Vers insupportable.
Hein? Supportable. Voilà. Le voyageur dont le jeûne est difficile, mais d'une difficulté supportable. Pour lui, c'est makrouh. C'est détestable.
Mais du sens de voyage.
On revient aux usages. C'est quoi un voyage dans les usages? Aujourd'hui, en 2019, c'est quoi un voyage dans l'esprit des gens? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Marseille-Toulon? C'est pas un voyage, ça. Dans l'esprit des gens. Marseille... Paris, là, Marseille-Biarritz, Marseille, tout ça c'est connu chez nous, c'est un voyage ça. Tu pars de Marseille, que tu vas à Lyon maintenant, ça commence à devenir un voyage aussi. C'est un voyage, d'accord? Al-Moussaf, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, une difficulté supportable. Lui, c'est détestable pour les jeunes. S'il est jeune, il a commis quelque chose qui est détestable. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laïsa min al-bir as-siyam fi safar. Ne fait pas partie des bonnes actions que de jeûner en voyage. Mais dans cette situation-là, d'accord? Dans la situation où le jeûne pour le voyageur est difficile, mais d'une difficulté supportable. C'est bon? Ensuite?
Si c'est insupportable, c'est interdit de jeûner.
Voilà. Par contre, si c'est une difficulté qui n'est pas supportable, il lui est interdit de jeûner. La yajouz. La yajouz. D'accord? Comme a dit, sallallahu alayhi wa sallam, oulaïka l'usat, oulaïka l'usat. Quand le prophète, il a, en voyage, il a rompu le jeûne devant tous les sahabas. Il a levé le verre, il a bu devant tous les sahabas. Et certains sahabas, ils avaient rompu avec lui. Et certains, non. Ils ont continué à jeûner. Et quand le prophète il a su, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceux-là sont désobéissants, ceux-là sont désobéissants. Donc ça montre bien que dans la situation précise qui était celle-là, il n'avait pas le droit de continuer à jeûner. Pourquoi? Parce que la difficulté était trop grande, trop importante, insupportable. Et troisième cas? On a dit deux cas, c'est tout. On a vu être détestable, interdit, et maintenant?
Pour celui où il n'y a pas de difficulté.
Non, pas de difficulté. Pour celui qui voyage, il n'a aucune difficulté. Hein? Qui voyage, dans la voiture, c'est pas lui qui conduit, il y a la clim.
Ou alors, situation, ça.
Hein? Il est derrière, il dort pendant tout le trajet. Il ressent aucune gêne. Il ressent aucune gêne. Vous voyez, pour lui, c'est quoi? C'est obligatoire de jeûner?
Recommandé.
Non, il fait. Hein? C'est recommandé. C'est mieux de jeûner. S'il ne veut pas jeûner, il ne jeûne pas. Il a le droit. Parce qu'il est en voyage. Alhamdulillah. Mais c'est mieux de jeûner. Et le hadith qu'on a vu, c'était le hadith où les sahaba, la plupart avaient rompu leur jeûne. sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un compagnon qui s'appelait Abu Rawaha. Abu Rawaha, il avait continué à jeûner. Pourquoi? Parce que justement, les deux, là, le prophète et le compagnon, Abu Rawaha, ne ressentaient aucune difficulté particulière, donc ils pouvaient continuer à jeûner. D'accord? Vous voyez ici que si tu prends un seul hadith, parmi les trois hadiths qu'on a évoqués là, si tu prends un seul hadith et que tu ne connais pas les règles de l'argumentation et du raisonnement religieux, il se peut que tu dises non, c'est interdit pour le voyageur de jeûner. Si tu prends que le hadith de l'interdiction. Ou si tu prends que le hadith où le sahabi il jeûnait, tu vas dire non, le voyageur, pour lui, c'est mieux de jeûner, dans tous les cas. Mais quand tu as appris ta religion et que tu sais que quand tu fais un raisonnement religieux, quand tu fais une déduction religieuse, tu dois rassembler tous les textes. Et à partir de là, tu as compris et tu comprendras que selon la situation, eh bien, le jeûne du voyageur peut être détestable, peut être interdit et peut être recommandé. Comme pour le malade, le jeûne peut être obligatoire, interdit ou recommandé.
Détestable.
Non, recommandé. Il n'y a pas de détestable pour le malade. Pour le malade, recommandé, d'accord ? Quand il n'a aucune gêne, obligatoire. Non, c'est aucune gêne. Aucune gêne, c'est obligatoire. Ou quand il ressent une certaine gêne, mais que ça ne le nuit pas, c'est recommandé. Et quand ça le nuit, c'est interdit. D'accord ? نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى الله تعالى أعلم وسنتكلم الأسبوع القادم إن شاء الله عن الحامل والمرضع on parlera la semaine prochaine de la femme enceinte et celle qui allait la femme enceinte et celle qui allait إن شاء الله تعالى الله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك